6h54 minutes en ce lundi matin, on n'avait pas le choix. Pas le choix vraiment. De reparler avec l'ami Gabriel Giguère, qui est analyste politique pour l'Institut économique de Montréal. C'est que jeudi dernier, même heure, même poste, il nous parlait des avantages du Québec de bouger rapidement dans toute cette histoire d'économie entre les provinces et d'abolir les barrières interprovinciales.
Et d'après moi, le ministre québécois délégué à l'économie, Christopher Skeet, était à l'écoute de Boulevard 101 parce que dès vendredi, il a présenté son projet de loi 112 qui a pour but d'abaisser définitivement les barrières interprovinciales.
Il est au bout du fil. Gabriel, bon matin.
Bonjour, monsieur.
Hey, Gab, t'étais-tu surpris que t'as autant de poids et que ça se fasse aussi rapidement après notre jasette de jeudi matin?
Moi, je pense qu'il était tanné qu'on en parle à Reg Against le matin. Depuis janvier, là, il s'est dit, là, ça suffit, c'est la goutte de trop, là.
Mais, hey, tu nous l'as dit, tu nous parlais des avantages jeudi matin de, justement, là, emboîter le pas, embarquer dans toute cette aventure-là, là, d'abaisser les barrières interprovinciales. Es-tu content avec l'annonce de vendredi?
Ouais, ben, tu sais, j'ai pris quand même le temps de bien lire le projet de loi, puis je trouve ça assez intéressant. Je dois dire que le Québec qui bouge, même si c'est un petit peu plus tard que plusieurs autres provinces, il le fait. C'est une bonne chose de Christopher Skeet. Le projet de loi semble assez solide. Il y a des petits bémols et on y reviendra. Mais globalement, si je peux même donner une petite étoile là au Québec et au gouvernement pour ce projet de loi-là, je le fais, notamment parce que, comme tu sais, c'est pas la première province à déposer un projet de loi qui vise à faire tomber les barrières au commerce interprovincial. Hein. On le sait, on a la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Manitoba, il y a trop d'exceptions, mais ça reste qu'ils en ont déposé un, puis il y a également l'île du Prince-Édouard. Maintenant, tous ces projets de loi ont un concept clé qui s'appelle le concept de réciprocité. Autrement dit, on va faire tomber nos barrières si vous adoptez, en parlant d'une autre province, bien entendu, un projet de loi similaire qui fait également tomber les barrières. Comme ça, on vient de façon réciproque abaisser les barrières au commerce interprovincial pour faciliter le commerce. Or, ce qu'on voit avec le projet de loi 112, qui est le projet de loi au Québec pour éliminer les barrières au commerce interprovincial, il n'y a pas ce concept-là de réciprocité. Donc, on avance de façon unilatérale et je pense que c'est une excellente approche pour s'assurer de faire foisonner le commerce entre les provinces et de pas toujours attendre. Est-ce que quelqu'un va aussi adopter ce projet de loi-là? Évidemment, le projet de loi a juste été déposé la semaine dernière, mais c'est un très bon pas dans la bonne direction du niveau du gouvernement du Québec.
Ouverture au niveau du gouvernement du Québec, ouverture au niveau de François Legault. Est-ce qu'on est en train de se négocier un compromis du côté de François Legault? Le Canada paierait une partie de Churchill Falls, un grand projet hydroélectrique, puis nous, on donnerait notre adhésion au projet de l'oléoduc. On est-tu en train de négocier ça? J'ai-tu rêvé, Gab?
Non, je pense que tu ne rêves pas. On semble assister à une approche politique où on veut vraiment faire payer là la question là des fils de transmission entre Churchill Falls et le Québec. Puis je regardais ça un matin, c'est quand même évalué à 7 milliards de dollars. C'est énormément d'argent pour faire développer ça. Le gouvernement Legault, faut quand même rappeler également là que il y a de l'ouverture de son côté pour les oléoducs. C'est dit depuis mi-février lorsque non seulement il y a discuté avec Daniel Smith à ce sujet-là, mais plus largement lorsqu'il a compris, en prenant le coup de la population québécoise, que la population n'est pas contre. Elle est en faveur. Elle le comprend avec les tensions commerciales américaines, que ça prend des nouveaux débouchés. Il faut réduire la dépendance. Donc, c'est tout à fait possible que dans les prochains jours, hein, parce qu'on le sait que c'est aujourd'hui que s'ouvre la discussion à Saskatoon entre les premiers ministres provinciaux et le premier ministre Mark Carney au Canada, il pourrait y avoir des annonces qui arrivent très prochainement. Ça va être à suivre. On peut toujours parler d'acceptabilité sociale comme étant un problème au Québec, à tout le moins une certaine frange politique provinciale. Maintenant, je pense que c'est assez clair qu'avec plusieurs sondages, les Québécois sont en faveur. Alors, il ne faut pas se surprendre s'il y a des grosses annonces qui s'en viennent dans les prochains jours ou les prochaines semaines à cet égard.
Est-ce que tout ça va mettre également de la pression sur le Parti québécois, Gabriel, parce qu'ils sont en avance dans les sondages? On les voit comme étant les gestionnaires du gouvernement en 2026. Alors, ils n'auront pas le choix de se positionner pour ou contre l'oléoduc. Penses-tu que ça va les amener à se positionner pour?
Ah, c'est une très, très bonne question. Je ne suis pour le moment pas encore stratège pour le Parti québécois, mais ce que je peux dire, alors blague à part, ce que je peux dire, c'est qu'avec les positions historiques, je suis loin d'être persuadé qu'ils se positionneront pour. Néanmoins, ça semble assez incontournable que si une annonce de François Legault en faveur, ou plutôt un engagement de François Legault pour la création des d'un oléoduc au Québec, je pense que c'est incontournable que les partis politiques vont prendre position sur la question, évidemment. De mon côté, j'espère que les partis politiques seront en faveur parce que ça va être un vecteur de développement économique important, non seulement pour l'Ouest du Canada, mais pour l'ensemble du Canada. Donc, c'est sûr que c'est une bonne chose, selon moi. Maintenant, voyons voir comment le Parti québécois va réagir à ça. Rien n'est moins sûr, mais selon certaines tendances des dernières années, je suis pas persuadé que ça va être bien accueilli en fait au niveau du Parti québécois.
Hey Gabriel, tu m'as ouvert la porte un petit peu plus tôt là. C'est quoi les bémols du projet de loi 112?
Hey, t'sais, encore une fois, c'est un bon projet de loi. Maintenant, il pourrait y avoir une liste d'exceptions qui vient dire, ben écoutez, ce produit-là, cette job-là, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que il y a de la mobilité des travailleurs, elle vient d'être facilitée, hein, parce qu'il y a beaucoup d'ordre au Québec, donc on vient de dire, écoutez, là, je veux m'assurer en tant que gouvernement du Québec que vous ouvrez la porte le plus facilement possible à tout ce qui est professionnel formé dans d'autres provinces. Eh bien, mais il pourrait y avoir une liste d'exceptions de produits qui seront pas reconnus dans l'harmonisation, d'emplois également qui vont être moins reconnu, j'ai envie de dire. Et donc, le diable est dans les détails. Est-ce que la liste va être très, très longue? Puis ça va être un petit peu plus une approche pour nous expliquer qu'on voulait, nous aussi, faire partie de la gang avec un projet de loi, sauf qu'on a une longue liste. C'est tout à fait possible, mais je pense quand même qu'au cœur de ce projet de loi, ça reste positif. Parce que l'approche de base, c'est de dire on est ouvert, voici les exceptions. Au lieu de dire on est fermé ou moitiément ouvert, puis il y a des petites exceptions. Donc l'approche, l'angle, il est intéressant néanmoins. Maintenant, faut bien comprendre pourquoi la reconnaissance, parce que c'est de ça dont il s'agit dans le projet de loi, la reconnaissance est plus importante ou est à privilégier par rapport à l'harmonisation. C'est tout banal, hein, mais le ministre, en présentant son projet de loi, expliquait aux médias que pour une trottinette électrique, il a vraiment pris cet exemple-là pour expliquer, c'est pas pareil dans toutes les provinces. Vous allez peut-être avoir une lumière qui est nécessaire dans une province, mais pas dans l'autre. Une forme d'autocollant qui vient expliquer les caractéristiques de la trottinette qui doit être placée à un tel endroit, mais pas dans une autre province. Et donc, cette juxtaposition de réglementation, elle vient rendre difficile la vente de façon uniforme à travers le pays de plusieurs produits. Je pourrais parler également de l'épaisseur des cartons de lait. Ça peut paraître vraiment banal, mais quand on additionne tout ça, c'est là qu'on voit que le manque d'harmonisation vient gêner dans le commerce interprovincial. Et le projet de loi vient dire, si c'est vendu comme ça en Alberta, si c'est vendu comme ça au Manitoba ou en Colombie-Britannique, ça peut être vendu comme ça au Québec. Puis c'est un petit peu évident en même temps, là. J'ai pas l'impression que la Colombie-Britannique a des standards, mais absolument dangereux pour les Québécois, mais pas dangereux pour les gens qui habitent la Colombie-Britannique. Je pense que c'est un peu évident, là, que la reconnaissance est importante, parce que rappelons-nous que l'harmonisation, qui au départ, le ministre Christopher Skeet nous disait que c'était la bonne approche, ça fait des mois et des mois et des mois qu'il y a un projet pilote pour le camionnage et c'est toujours pas fini. Donc là, on comprend que si on veut harmoniser l'ensemble de la réglementation au Canada, là, on en a pour plusieurs générations, là. Ça fonctionnera pas. Donc, l'harmonisation est la bonne chose. Malheureusement, c'est pas tant malheureusement, mais attendons également de voir quelle est l'épaisseur de la liste d'exceptions, puis après ça, on va pouvoir rejuger là, la qualité, la démonstration du bon vouloir du gouvernement face à ce projet de loi-là.
Hey Gab, on a parlé de la relation d'affaires entre le Québec et Terre-Neuve. Si je te demandais, tu sais, mettons dans les prochains jours, prochaines semaines, maintenant qu'on a eu cette annonce-là de projet de loi 112 vendredi, y a-tu une province que tu vois que rapidement, ça serait intéressant qu'on fasse des affaires avec, de la business avec?
Quand on fait des modélisations pour voir le Québécois, il gagne à commercer avec qui? Évidemment, c'est avec tout le monde, mais le plus gros gain, c'est bien entendu l'Ontario. Mm-hmm. L'Ontario, c'est nos voisins. C'est des millions de personnes, là. Faudrait que je revérifie, là, mais c'est au moins 14, 15 millions de personnes de mémoire. C'est énorme. Et donc, le commerce entre les deux, si on abaisse nos barrières au commerce interprovincial, un peu comme le propose, évidemment, le projet de loi 112, et qu'on l'adopte, ce projet de loi, parce que c'est une autre chose, on pourra pas l'adopter tout de suite. La Chambre, elle finit de siéger vendredi, si je ne me trompe. Donc, ça risque, il resterait peu de temps. Ça va être en automne, normalement. Si l'Ontario également adopte son projet de loi, ben ça permettrait là d'augmenter là de plusieurs dizaines de milliards de dollars l'économie canadienne. Puis évidemment, de ce 32 milliards pour être précis, ben il y a une grande partie en Ontario, une grande partie au Québec, là, l'immense majorité en fait va être dans ces deux provinces-là, si c'est ces deux provinces-là qui vont commercer. Donc bien entendu, ça prend une relation renouée avec l'Ontario parce que ça va être notre plus gros partenaire commercial. Les grandes provinces canadiennes également ont un impact intéressant pour le Québec, mais ça reste que l'Ontario, c'est la part du lion pour nous, puis il faut absolument s'assurer d'être de ne pas avoir de barrières de part et d'autre avec l'Ontario, puis le Québec également. Comme ça, on va s'assurer là, de créer plus de richesses. Puis, je le disais, mais plus de commerce, c'est également... En fait, abaisser les barrières au commerce interprovincial, c'est augmenter les marchés pour les entreprises québécoises, notamment. Et donc, les entreprises les plus performantes vont avoir une plus grande... De plus grandes occasions de vendre leurs produits, et comme ils sont plus performantes, leurs ventes vont augmenter, plus d'embauches également. Ça fait tourner l'économie, ça augmente les salaires parce qu'ils sont plus productifs. Si on est plus productif, ben comme je vous le dis, on produit plus, et donc il peut y avoir une légère baisse de prix également. Donc il y a vraiment un cercle vertueux autour de la baisse de barrières tarifaires, et c'est tout le monde qui y gagne.
Gab, je termine avec ça. Est-ce que le fait que l'Ontario a signé un deal avec l'Alberta et que Daniel Smith est à la rencontre des premiers ministres à l'heure actuelle avec Mark Carney fait en sorte qu'on retrouve enfin cette fameuse unité canadienne-là entre les provinces et que l'Alberta va maintenant être un joueur d'équipe important?
Bien, je pense que oui. C'est sûr que quand on dit c'est un joueur d'équipe parce qu'on fait un peu ce que l'Alberta veut aussi, hein, c'est normal.
Ouais, en effet.
Donc, c'est plus facile d'être un joueur d'équipe, je pense.
Mais Daniel Smith a-t-elle gagné ses négociations?
C'est peut-être ça la question, en fait, là, parce que ça s'enligne pour ça, en tout cas, dans les prochains jours. Là, oui, on le voit déjà, il commence à y avoir des ballons là dans l'espace public, comme quoi, c'est ça que tu disais là de façon tout à fait juste, est-ce qu'on n'aurait pas un échange du gouvernement, on paye les lignes de transmission entre Churchill Falls et Québec pour un oléoduc? Je pense que les prochains jours, sinon les prochaines semaines, nous le diront, mais il va se brasser des grosses affaires au Canada, j'ai l'impression, dans les prochains jours. Donc, je pense que ça va être à suivre, assurément.
Tout ça a été lancé jeudi matin à Rage Against le matin avec Gabriel Jugal, l'analyste politique de l'Institut économique de Montréal.
Le meilleur chroniqueur économique de la business.
There we go. Hey Gab, encore une fois, merci beaucoup. Et je le sais que tu passes nous voir plus tard cette semaine en personne. On a bien hâte de te voir.
Ça va être très agréable. À bientôt.
Salut Gab.
Salut Gab.
Quand vous dites, super intéressant, t'sais, on n'aurait pas pu plus être sur... la nouvelle et l'annonce de ce projet de loi-là, là, 112, par rapport aux barrières interprovinciales. Ouais. La discussion qu'on a eue jeudi matin dernier avec Gabriel Jugal.
C'est la preuve qu'à Rage Against le matin, quand on parle de sujet, on parle de sujets pertinents.
Ouais. Quand on dit là, que c'est soit ce qui se passe en ville,
c'est ça.
Ou ce qui se passe ailleurs qui nous touche ici dans notre région, c'est un peu ce qui se passe avec
directement.
Cette économie-là. Merci à Gabriel Jugal, toujours un plaisir. Je ne sais pas si vous avez vu les images de ce qui s'est passé en fin de semaine dans le Colorado à Boulder, pas une grosse communauté, là, je pense que ça tourne autour de comme un genre de 100 000 citoyens côté population à Boulder, pas loin là, de Denver au Colorado, mais cette attaque que la FBI a qualifiée d'attaque terroriste ciblée, pas des images le fun à voir,
non.
Gars en bedaine, lance-flamme artisanale, cocktail molotov dans chaque main, c'est pas beau ce qui se passe. Là.
C'est vraiment pas beau ce qui se passe et c'est entre autres en raison, là, c'est relié justement au conflit Israël-bande de Gaza, donc Palestine-Israël, un pro-palestinien qui a attaqué des manifestants israéliens. Puis ça fait de plus en plus d'attaques sur des foules, alors... ça va être intéressant tout à l'heure de parler avec Roger Fernand par rapport à ça. Est-ce qu'on protège bien nos foules, que ce soit dans des fêtes familiales, que ce soit dans des parties organisées par la municipalité, du privé, ou même là dans des manifestations?
Oui, on va jaser de tout ça dans l'heure qui s'en vient avec Roger Fernand, qui est ex-enquêteur au SPVQ. Restez là, vous êtes à Boulevard 101, l'émission s'appelle « Rage Against le matin ». On est avec vous jusqu'à 10h.
On s'arrête deux,